Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans quelques instants. Je vais recevoir une championne du monde, Denitsa Ikhonomova, seule danseuse au monde à avoir remporté 3 victoires consécutives à Danse avec les Stars. Elle est là, elle est dans le studio, elle est avec nous et on va parler de cette nouvelle saison qui démarre samedi prochain sur TF1. Et puis à 10h30, on va parler télémédecine. Est-ce que vous seriez prêt à consulter un médecin via un écran ? C'est en train de se développer, mais un petit peu trop lentement. Est-ce que c'est une manière de lutter contre les déserts médicaux ? On en parle avec nous. Appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez réagir. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Allez, on s'y croirait, on est prêt, on s'est échauffé. Bonjour Denitsa, merci d'être avec nous. Denitsa Ikhonomova qui est avec nous. La tension est en train de monter un petit peu samedi.
Un petit peu
samedi soir, vous danserez avec Aziz Diabaté qu'on a vu dans les Bracelets Rouges. On va en parler avec vous, on va parler de cette nouvelle saison qui démarre sur TF1 à 21h. 10 ans déjà de Danse avec les Stars. Exactement. Vous avez remporté 3 victoires consécutives. En tout, vous avez gagné 4 fois.
Oui.
On va reparler
la dernière
de...
tenant en titre en plus.
Voilà,
elle remet en jeu son titre.
On va parler de tout ça avec vous. On va évidemment vous parler de ce qui s'est passé hier à la télévision avec le zapping, les audiences de Rémi Pernelet que vous retrouvez tous les matins à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger. Alors le top 3 hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête avec 5 206 000 téléspectateurs, 23,2% de part de marché pour le téléfilm Colombine avec Corinne Maziero. C'est 1,5 million de plus que la semaine dernière. C'est un très bon score pour TF1. Vous regardez les séries un petit peu ?
Oui, parfois je regarde. Après, c'est vrai qu'hier soir, j'étais en train de bosser sur Danse avec les Stars.
Vous entraînez le soir, tard ?
Sinon, je fais les chorégraphies.
Ah, d'accord.
Alors du coup, j'étais déjà en train de préparer ma deuxième choré.
Mais quand vous faites les chorégraphies, vous travaillez comment ? Pas devant la télé ? Non ?
Non, pas devant la télé, avec mes écouteurs. J'écoute la musique plusieurs fois et après, j'essaie d'imaginer l'univers, les pas.
Bon. On va revenir sur vos goûts télé dans un instant. Deuxième position, M6, L'amour est dans le pré. 3 438 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. 100 000 de téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Et puis France 2 avec une nouvelle série policière, The Bay, qui a rassemblé 2 278 000 personnes. C'est 100 000 de plus que la semaine dernière avec la série française À l'intérieur. Un carton pour W9 avec 1 109 000 téléspectateurs, ce qui est très bien pour W9 avec le film américain Deepwater qui était inspiré d'une histoire vraie, l'incendie d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, W9 qui était la 4e chaîne nationale hier. On va écouter nos auditeurs. Qu'avez-vous regardé hier soir ? 0826 300 300. On a Régine en ligne avec nous qui nous appelle de Souillac. Bonjour Régine.
Bonjour.
Alors vous avez regardé TF1 vous hier ?
Ah, j'ai regardé Colombine, oui, oui, effectivement. Dans la mesure où j'étais un petit peu sceptique, puisque
mais pourquoi ?
Pour avoir suivi pendant souvent, assez souvent, Corinne Maziero dans Capitaine Marlowe, j'étais impatiente de voir comment on avait pu déplacer ce type
de personnage. Oui.
D'un policier, ça passe très bien, d'accord,
sur une bonne sœur, oui.
Et en fait, j'ai été absolument conquise parce que, d'accord, il y a le cadre qui s'y prête, l'Afrique, les événements, mais elle reste, elle n'est jamais vulgaire, elle est, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de son personnage, elle garde une certaine pudeur tout en étant un peu décalée et un peu...
Vous avez été convaincue.
Ah, complètement.
Sur Twitter, il y avait beaucoup de critiques en disant que c'était le même jeu. Elle avait un rôle différent.
Un personnage bourbon.
Mais qu'elle jouait un peu toujours la même chose, de la même façon. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ou pas du tout?
Bien sûr qu'elle est égale à elle-même. C'est, bien sûr, elle est comme ça. Mais je veux dire par là que par rapport au capitaine Marlowe, je trouve qu'elle était quand même plus atténuée, il y avait davantage de pudeur dans son personnage. Que dans Capitaine Marlowe. Moi, j'ai trouvé que Dominique Baron avait mis bien le doigt sur la personne à utiliser pour son personnage. Et non, moi, j'ai pas senti tant de d'exagération. Elle était égale à elle-même, en fait.
Oui, bah, c'est son personnage. C'est sûr qu'on va pas en faire une héroïne évanescente. Voilà. Merci, Régine. Émeric nous appelle également au 0826 300 300. Bonjour, Émeric. Vous êtes un fidèle de L'Amour est dans le Pré?
Fidèle, un petit peu beaucoup fidèle, oui. J'ai toujours aimé en fait dès les premières fois l'émission. J'ai toujours adhéré en fait. J'ai toujours aimé. Je trouve que c'est très romantique, on va dire. Ouais. Et c'est, je trouve ça chouette. Et bizarrement, ben je crois qu'hier soir je me suis ennuyé.
Ah bon? Et pourquoi? Ah oui.
Je sais pas. J'ai trouvé très plat. Il y a moins de.
C'est pas grand chose.
Il y a qu'un seul vrai personnage en fait. Il y a que Didier. Oui. Et à côté de Didier, tout est un peu fade, non?
Tout à fait. On sent que hier soir, je sais pas, c'était beaucoup plus plat, beaucoup moins. C'était moins pétillant, on va dire. C'était moins pétillant. Pétillant que d'habitude. Et j'ai essayé de rester jusqu'à la fin, je me suis endormi un petit peu par moi. Pas décevant, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi. J'ai senti que cette fois-ci, c'était moins. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai pas accroché. J'ai pas trop accroché.
Et vous regarderez la semaine prochaine, non?
Ah oui, je vais continuer. J'espère que ça va.
Bon, après, le retour de Didier la semaine prochaine.
Voilà, il faut qu'il y ait. Je trouve qu'il manque un petit peu de. Alors, je sais pas, je cherche pas non plus de piment, mais voilà.
Eh bien, écoutez, on verra la semaine prochaine. Alors, vous peut-être que ça ira mieux. Franck en ligne avec nous également. Bonjour, Franck, vous nous appelez de Béziers.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez regardé?
Ah, moi, j'ai opté pour les valeurs sûres. J'ai regardé Il était une fois le Bronx.
Ah, oui, vous avez raison. Un bon film, efficace.
Une belle saga, superbe. Ouais. Avec De Niro, ouais. Excellent, avec une belle peinture des années 60. Le petit jeune tiraillé entre deux systèmes de valeurs, le père modeste, et puis par contre le mafieux, mais tout chacun avec ses valeurs respectives, c'est superbe.
Superbe film. Alors, je sais pas si ça a fonctionné hier, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un très bon film sur Arte, qui a une programmation.
Ça marche bien, les films d'Arte, un peu comme ça, oldies, on va dire.
Oldies. Alors, dites-nous, merci beaucoup, Franck, merci de nous avoir appelé. Quelle est l'émission que vous ne ratez jamais, Denitsa?
Je pense que c'est The Voice.
C'est vrai?
Ouais, j'adore. En fait, déjà, le milieu artistique, ça veut dire que ça me correspond très bien, mais j'adore The Voice, j'adore les auditions à l'aveugle. Et du coup, non, je rate jamais. Mais surtout maintenant qu'il y a The Voice Kids. Je suis très curieuse.
Là aussi, vous êtes fan de The Voice Kids?
Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. De voir s'il y a ce jeune talent, c'est extraordinaire.
La première fois que vous vous êtes vue à la télévision, c'était quand et c'était dans quelle émission?
Ah oui, ça me fait très bizarre. En fait, c'était une émission que j'ai faite au Canada. Ça s'appelle So You Think You Can Dance, c'est une émission de danse. Et je pense que c'est aussi grâce à cette émission-là que Danse avec les Stars sont venus me chercher.
Ouais.
Et c'est vrai que ça me fait bizarre. J'ai jamais cru que j'allais être devant les caméras. Je préfère être... Je suis quelqu'un d'un peu plus réservé, un peu plus timide à la base, hein, même si les gens y pensent le contraire. Mais je préfère être derrière les caméras que devant. Et c'est une sensation bizarre de vous voir devant et de savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent et qu'ils peuvent vous reconnaître à la rue.
Vous êtes née à Sofia, en Bulgarie.
Vous
êtes née en Bulgarie.
Exactement.
D'accord. Vous avez quitté la Bulgarie à quel âge?
À 15 ans.
15 ans, donc vous avez eu toute votre enfance là-bas. La télévision, c'était quoi? Quel souvenir vous avez? Est-ce qu'il y avait
Oui, il y avait la télévision, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 5 ans, on avait 4 chaînes, j'avais pas de télécommande, il fallait que j'aille jusqu'à la télé pour changer les chaînes.
Ouais.
Et jusqu'à 16h, 17h, c'était l'écran en neige, il n'y avait pas, pas d'émission.
Ça démarrait en soirée, en fait.
Ça démarrait en soirée.
C'est beaucoup de télé d'État à l'époque.
Ouais, je regardais beaucoup les télénouvelles.
Et le choc pour vous, ça a été quoi, la télévision, quand vous avez découvert finalement les émissions européennes ou américaines, parce que vous avez vécu au Canada?
Oui, j'ai vécu par la suite, à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé au Canada. Et là, c'était complètement différent. Déjà, je parlais pas les langues, parce que le Canada, c'est un pays bilingue, l'anglais et le français. Alors du coup, il fallait que j'apprenne quand même deux langues. Allez, je m'y lance. mais c'est le meilleur moyen pour apprendre, en tout cas. Je sais que quand je suis arrivée, c'était au mois de mai, l'école était finie, je recommençais à la rentrée au mois de septembre. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre à fond... au bouquin et la télé. Pour que
et la télé vous a aidé justement à
beaucoup,
apprendre,
beaucoup,
apprendre
le français. Vraiment, vraiment.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a une émission, alors vous m'avez dit The Voice, mais est-ce qu'il y a une autre émission un peu inavouable que vous aimez regarder la télé-réalité, des émissions de cuisine, quelque chose qu'on n'imagine pas.
Je regarde pas la télé-réalité.
Non.
Je regardais beaucoup au Canada des émissions de cuisine, mais là, ici, pas vraiment.
Vous regardiez l'émission de la mère de Céline Dion, non? L'émission de cuisine. Ah, vous savez pas?
Non.
Maman Dion sur Radio-Canada.
Non, c'était peut-être plus tard.
Après, c'est vrai que je préfère lire que regarder la télé.
Alors, on va passer au zapping de Gilles qui regarde, lui, la télé assidûment.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Après l'émission, elle me boucle avec un verrou devant la télé. Je regarde la télé. Voici le zapping du jour. Alors, au sommaire pour vous, Denitsa et Valérie, on va commencer par l'affaire Balkany qui était encore dans tous les talks hier soir et dans C'est à vous sur France 5. Il recevait Pierre-Olivier Sûr, c'est l'avocat d'Isabelle Balkany. Et même si vous l'avez vu partout ce week-end, vous allez voir, elle n'est pas très en forme d'après son avocat. En revanche, elle est très, très en forme. C'est Brigitte Macron qui redevient une maîtresse. Son ancien métier, elle a fait sa rentrée scolaire dans un établissement à Clichy-sous-Bois destiné aux grands décrocheurs. Évidemment, la presse était présente. Depuis ce matin, ça tourne en boucle sur BFM, des extraits de l'interview du frère de Yann Moix. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. L'intégralité sera diffusée ce soir et ce court extrait où il parle de la violence de son frère fait froid dans le dos. Ce doc est diffusé sur TF1 sur les gagnants du loto. Écoutez bien ce témoignage et comment ce gagnant en a fait profiter sa famille. Et puis ce fait divers très choquant, une histoire juste scandaleuse dans un hôpital. Ils avaient mis en place des petites voiturettes pour enfants, pour les déstresser, pour les emmener
au bloc
opératoire. Et ces petites voitures ont été volées, ce qui est juste incroyable.
C'est Patrick Chen qui était à l'initiative de
d'une cagnotte, absolument.
Non, mais qui était à l'initiative de ces petites voiturettes et il a lancé une cagnotte, il a dit qu'il rachèterait ses voitures si elles n'étaient pas
prouvées. Et hier, il a été entendu par Hanouna. C'est le premier son.
Et donc hier, il y a une cagnotte qui a été lancée, que voilà, cette info nous a touchés. Donc voilà, on va offrir des voiturettes aux enfants, bien entendu. Et j'espère que cette fois-ci, elles ne seront pas volées parce que c'est un des abrutis.
Je vous ai dit qu'elle va pas bien. Je vous ai dit qu'elle est fragile. Je crois que ça se voit aussi. Je vous ai dit que c'est cette adrénaline qui l'a fait tenir. Je vous ai dit que si elle tient, c'est quelque chose qui est artificiel aussi. Je vous ai dit que je n'ai peut-être pas à vous dire ce que disent les médecins, mais je vous dis que si elle tient, c'est parce que aussi cette affaire est hyper médiatisée. Dans la salle d'audience, il n'y a pratiquement que des journalistes et elle est obligée, elle le ressent comme ça, de donner le champ.
J'ai ma petite anxiété de rentrée, mais en tant que prof, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai envie de les connaître, de voir un petit peu. On a imaginé un programme avec eux qui va être évolutif. Et à l'intérieur de ce programme, ponctuellement, je verrai avec mes collègues de français pour faire un peu de littérature.
Je me souviendrai à vie de cette scène où, de force, il est venu me chercher. Il m'a empoigné les cheveux. Il m'a pris une fois la main qui m'a mis de force dans les persiennes de notre chambre, donc les persiennes en ferraille, et les a brusquement refermées sur mes doigts. J'en ai vomi de douleur et j'en suis tombé dans les pommes. Et je me souviens de la force qu'il avait, je pouvais même pas ressortir de dessous les draps.
Il est divorcé, manque de chance pour son ex-femme, elle l'a quitté avant qu'il ne gagne au loto. Par rancunier, Patrice l'a installé, elle et son nouveau compagnon, à quelques kilomètres de chez lui, dans cette grande villa. Et il les emploie désormais comme domestiques.
Salut. Ça va, on a pris un peu de retard. Ça va, Vissof ?
Ouais.
Ça vous fait réagir.
Waouh, quelle punition.
Voilà, des histoires assez
c'est le karma.
C'est incroyable.
Voilà, puni.
Mais il les a quand même gardés, ces nouveaux domestiques. Vous feriez quoi si vous gagniez au loto ?
Mais qu'est-ce que je fais? Déjà, je sais pas, honnêtement, je pense qu'il y a tellement de gens qui font une dépression après avoir gagné.
Oui, ils savent pas quoi faire avec
autant
gérer,
d'argent. Non, il faut
vous
vraiment.
Vous continueriez à danser, Denitsa? C'est votre passion.
Oui. Je pense que je vais consacrer tout mon temps à la danse.
Vous racheteriez peut-être l'Opéra de Paris.
Voilà. peut-être.
Sandra nous dit, Denitsa, c'est la plus belle de Danse avec les Stars et celle qui danse le gentil. Mieux. À chaque fois, je vote pour elle. On a entendu des extraits donc, de diverses émissions qui traitaient de politique. L'affaire Balkany, vous suivez la politique?
Pas trop, j'avoue que pas trop, vu que je ne regarde pas forcément. Ouais. J'essaie de me renseigner quand même des sujets les plus gros qui passent à l'actualité, parce que c'est quand même important de rester renseignée, mais voilà.
L'affaire Moix, vous avez suivi, Yann Moix?
Un petit peu, oui. Ouais.
Son frère s'est exprimé, c'était sur BFM, Gilles, et l'intégralité de l'interview.
Ce que je disais, en ce moment, tous les quarts d'heure, il diffuse cet extrait-là comme un teasing, et il va enfin s'exprimer ce soir chez Bruce Toussaint, il va révéler sa vérité. C'est compliqué de savoir qui a raison des deux frères, en fait.
Oui, alors, du coup, je vais bien suivre
vous
ce
soir.
Vous
allez regarder. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors déjà, quand on tape votre nom, quand on tape Denitsa, c'est vous qui arrivez en tête sur Google, hein, Denitsa.
Je pense que ce n'est pas un prénom très courant.
C'est pas un prénom courant, Ikonomova. Et alors après, les questions qu'on se pose le plus sur vous, c'est âge, taille, taille et poids, origine et danse avec les stars. Il n'y a pas nu, fiancé, c'est vraiment...
C'est bizarre qu'il n'y ait pas fiancé. Ça très bizarre.
Voilà, vous mesurez combien?
1m60.
Et alors, vous en avez fait un atout, parce que les danseuses sont souvent plus grandes. Pour
bien
vous, c'est un atout d'être plus
petite. Bien sûr, on est
petite.
Vu que je suis plus basse, tout près de, de la terre. En fait, j'ai un peu plus de vitesse. Quand on est plus petit, on tourne plus rapidement. On essaie de jouer sur l'énergie, parce que voilà, nos mouvements sont beaucoup plus rapides quand on est beaucoup plus restreint.
Et vous êtes plus légère aussi pour des portées. Vous pouvez faire des portées plus impressionnants, non?
Peut-être. Après, les portées aussi, ça dépend de la personne. Si elle se tient bien, il faut pas avoir peur. Il faut avoir un bon sens de l'équilibre. Alors même les grandes, elles font des portées magnifiques.
Ouais. Alors samedi soir, Danse avec les Stars redémarre, 10 ans déjà.
Ouais.
Vous, ça fait combien de temps que vous y êtes?
Moi, ça serait ma 8e émission.
8e émission, vous avez gagné 4 fois, les 3 dernières fois consécutives.
Ouais.
Comment vous le sentez cette année? Alors on vous a attribué Aziz Diabaté, qu'on a vu dans les bracelets rouges.
Oui. Je sais pas, je pense que cette année ça va être assez différent parce que déjà je trouve que le niveau il est assez polyvalent, assez égal, assez homogène, dans le sens que il n'y a personne qui sait danser cette fois-ci et ils commencent à peu près au même niveau, à part certains qui ont beaucoup plus de difficultés, mais je trouve que c'est très bien et cette fois-ci on peut être surpris. Je pense que ça va être une saison surprenante.
Alors, on peut les citer, Eliane Folly, Ladji Ducouré, donc champion du monde du 110 mètres haies,
hein.
Linda Hardy, Moundir. Donc, je ne sais pas s'il danserait bien, Moundir. Si.
Honnêtement, oui, c'est pour ça que je dis que ça serait très surprenant.
C'est vrai, vous l'avez vu un peu en entraînement.
J'ai vu un petit peu, oui.
Et alors,
d'espérer.
Il est à l'aise.
Et honnêtement, il se débrouille.
Hugo Philippe, mannequin, comédien, influenceur. Elsa Esnou, qui est chanteuse et comédienne dans Les Mystères de l'Amour. Samy El Guedari, donc athlète en e-sport. Donc ça, c'est une performance.
Oui, exactement.
Il est multimédaillé en natation, mais effectivement, il est handicapé. Donc c'est pas évident non plus. Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu et je trouve que sa cause est noble. Il veut prouver que malgré les handicaps, on peut toujours continuer à vivre et faire ce qu'on a envie de faire.
Clara Morgan, qui a peut-être un petit peu plus d'avance sur les autres, non? Elle a
de la souplesse en tout cas.
De la souplesse. Et Johan Rioux, qui va être un petit peu peut-être le Moscato ou de cette année.
Le petit Johan, c'est vrai qu'il a un peu plus de difficultés que les autres parce que lui, pour le coup, il part vraiment de 0-0-0-0.
moins 0.
Moi, ce ne sera pas le gagnant.
On ne sait pas. Peut-être que les gens ils vont l'adorer. Ouais. Peut-être que les gens ils vont accrocher. C'est le public quand même qui vote aussi.
Et alors, vous n'avez pas votre mot à dire. On vous dit, voilà, toi, tu seras avec Aziz Diabaté.
Non, on avait notre mot à dire. On ne choisit pas nos partenaires. Alors, je pense qu'ils ont essayé de faire par rapport à la taille aussi.
Oui.
Parce que les autres, ils sont quand même assez grands. Et Aziz,
il est plutôt de votre taille.
De ma taille. Non, 1m60, c'est assez difficile. Mais non, il est 1m72, je pense.
Et alors, comment ça se passe, les premières répétitions?
Ça se passe très bien.
J'ai vu qu'il avait une panne de réveil.
Oui, tout le monde a suivi
ça. Bah oui, oui, évidemment.
Oui, c'est vrai qu'il est assez jeune. Il n'est pas très matinal, ça c'est vrai. Et il a du mal à se réveiller. Mais il y a sa maman qui s'occupe de ça maintenant.
C'est son nouveau réveil.
Alors, mais non, il se débrouille très bien. C'est un grand bosseur. Il y a beaucoup d'énergie. Il faut le canaliser un petit peu. Et il faut lui apprendre tout, parce qu'il a 19 ans, il vient de la Cité Rose, comme il a fait dans son film. Oui. Et c'est vrai qu'il faut tout lui apprendre. Je suis un peu... J'ai pris la relève de sa maman.
Voilà. Alors, sans langue de bois, Denitsa, est-ce que entre les danseurs et les danseuses, maintenant vous connaissez bien, il y a de la rivalité pour arriver en premier? Est-ce que vous entendez bien, mais quand même vous sentez qu'il y a eu comme ça un peu de concurrence entre vous?
Honnêtement, pour dire vraiment pour la vérité, il y en a pas. On est tous des amis et on s'entraide vraiment souvent. Alors bien sûr qu'on va faire notre maximum pour arriver le plus loin possible et même remporter l'émission. Mais on est heureux à chaque fois, peu importe qui le gagne. Et c'est ça que j'adore dans cette émission-là. C'est vraiment une émission, on dit tout le temps, je pense que c'est devenu un cliché de dire que c'est une émission familiale, qu'on est tous une famille et qu'on s'adore tous. Mais c'est la vérité. C'est pour ça que ça revient aussi souvent.
Le partenaire que vous avez préféré?
Écoutez, j'ai eu tellement de partenaires extraordinaires.
Elle sort les rames, la langue de bois.
Non, je les ai tous aimés, vraiment, même ceux avec qui je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Ils étaient extraordinaires, je garde toujours contact. Même Laurent Onna, qui vient tout juste de m'envoyer la semaine dernière un message très touchant.
Je voulais savoir juste, parce que j'ai lu ça, comment vous réagissez aux gens qui disent qu'on vous donne les plus faciles, que vous êtes privilégiés? J'ai vu à un moment que vous avez tapé du poing sur la table en disant que ça vous énervait. J'ai lu 2-3 articles là-dessus.
J'essaie pas trop de faire attention aux commentaires négatifs. Il faut faire abstraction de ça, de la négativité. Je suis quelqu'un d'assez positif. Et peut-être, j'ai quand même des candidats qui commencent avec du talent, qui commencent avec peut-être un peu plus de facilité. Mais pour amener quelqu'un à la finale, ça demande beaucoup plus que ça.
Vous regardez les audiences le dimanche matin?
On nous envoie pour nous dire que si on était en tête ou pas, ce qui nous fait toujours plaisir de savoir qu'il y a autant de monde qui nous regarde, parce que c'est une émission qui fait du bien, une émission d'amusement, de plaisir et bonheur.
Bon, bah écoutez, on va s'amuser samedi soir avec vous.
Comment on dit dans 5 les stars en bulgare?
Oh là, t'as un souvoi, ça se vestite.
Ça n'existe pas là-bas, le programme.
Je pense que ça existe. Le concept est un peu différent. C'est fait autrement, mais oui, ça existe.
Denitsa Ikonomova qui sera avec Aziz Diabaté samedi soir. Et on vous souhaite bonne chance.
Merci
à vous. Et puis, vous reviendrez si vous gagnez.
Avec plaisir.
Et puis, vous allez gagner. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant. On va parler télémédecine avec vous. 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Deuxième partie de cette émission, on est ensemble jusqu'à midi, on commentera l'actualité à partir de 11h, on va revenir sur plusieurs sujets qui font l'actualité, en particulier on va reparler des déclarations d'Emmanuel Macron sur l'immigration, on va reparler également de la plainte qui est déposée par plusieurs familles contre le ministre des Affaires étrangères qui refuse de rapatrier des enfants de djihadistes qui sont en Syrie, 0826 300 300, et puis on parlera évidemment du prix de l'essence. Le Parisien publiait ce week-end, le week-end dernier, une tribune signée par des élus locaux pour faire de la télémédecine une priorité. La télémédecine, eh bien, c'est quand vous pouvez consulter un médecin à distance. Ça a été lancé il y a un an, ça n'a pas connu le succès escompté. Il y a environ 60 000 consultations, on en attendait 500 000. Selon un récent sondage, 79% des Français estiment que ce n'est pas fiable, pas aussi fiable qu'un médecin qu'on voit physiquement. Et il n'y a que 2000 médecins qui ont adapté leur pratique. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre les déserts médicaux? Est-ce que vous auriez confiance? Est-ce que vous faites confiance à la télémédecine, à cette consultation? 0826-300-300. Pour en parler avec vous, Louis Malachane, vous êtes médecin généraliste, vous êtes directeur médical de Léa. C'est une solution de télémédecine. Donc vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Franck Drouin, bonjour. Vous êtes consultant en santé, président président de CAISA. C'est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la santé. Et puis, on en ligne avec nous John Billard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire du Favril, 352 habitants et président de l'association des maires ruraux d'Eure-et-Loire. Et on va voir avec vous ce que vous avez mis en place. Je voulais voir peut-être avec vous, Louis Malachane, comment ça s'est ce qui a été mis en place depuis un an et pourquoi ça n'a pas plus fonctionné que ça.
Bonjour.
Bonjour.
Alors,
mais la première question, c'est quoi la télémédecine? Comment ça marche?
Alors, la télémédecine, c'est très très simple. En fait, c'est juste un acte de soin qui est exécuté à distance. Même parfois, un simple coup de téléphone entre deux professionnels de santé peut déjà être considéré comme un acte de télémédecine. D'accord. Chez Léa, ce qu'on fait, c'est qu'on a simplement créé un outil à destination des médecins généralistes ou des médecins spécialistes pour les aider à mieux prendre en charge leurs patients à distance.
Ouais. Mais il faut avoir vu le médecin avant. C'est ça que j'ai découvert en préparant cette émission.
Oui,
en fait, est le gros point noir. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, me connecter, voir un dermato, un médecin que je n'ai pas vu auparavant.
Alors, bien sûr que si, ça, vous pouvez le faire, mais elle ne sera pas remboursée.
Sur le remboursement.
Voilà,
d'accord.
Il faut bien que les auditeurs comprennent qu'il y a deux types de téléconsultation. La téléconsultation qui est remboursée et la téléconsultation qui n'est pas remboursée. Pour qu'une téléconsultation soit remboursée, donc soit prise en charge par l'assurance maladie, il faut qu'il y ait trois critères. Il faut que vous connaissiez votre médecin, il faut que vous l'ayez vu dans les 12 derniers mois.
D'accord.
Et il faut que ce soit le médecin qui vous invite à faire une prise en charge à distance. Ce n'est pas vous qui pouvez demander à votre médecin.
Donc ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre les déserts médicaux.
Effectivement.
En droit, non, c'est le principal, c'est le principal frein.
C'est un des aspects, la téléconsultation, puisque la télémédecine, comme le disait le docteur à l'instant, c'est extrêmement large. La téléconsultation est un des aspects de la télémédecine, qui a démarré depuis effectivement le 15 septembre de l'année dernière. Il y a plein d'autres leviers aujourd'hui, plein d'autres réponses pour lutter contre les déserts médicaux.
Oui.
Ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui est un sujet sur lequel on peut pas mal discuter. Mais le frein aujourd'hui n'est pas à chercher du côté des technologies, n'est pas à chercher effectivement du côté même du remboursement, il est à chercher du côté de l'évolution des mentalités. Et de l'accès aux soins.
On a Sandra qui nous dit j'ai testé cet été, ça m'a évité 5 heures d'attente aux urgences. C'est l'objectif, c'est aussi de désengorger
Bien sûr. Il ne faut pas considérer la téléconsultation comme un substitut d'une vraie rencontre avec un vrai médecin qui peut vous toucher.
Dans quel cas justement?
Y a plein aujourd'hui des premiers retours d'expérience en France ou à l'étranger, puisque dans beaucoup de pays dans le monde c'est déjà développé. Ça permet tout simplement par exemple d'éviter un renouvellement d'ordonnance. Plutôt que d'attendre de mobiliser un médecin pour faire un acte mécanique de renouvellement d'ordonnance, on peut pratiquer une téléconsultation, ce qui permet de donner plus de temps d'un médecin à des gens qui en ont vraiment besoin, sur du dialogue et de l'échange.
Oui, mais pourquoi un simple coup de fil suffit? La télémédecine, c'est quoi? C'est qu'il y a forcément une interaction visuelle. Quelle est la différence avec un coup de fil à un médecin?
Déjà, c'est que premièrement, pour être remboursé, il faut qu'il y ait un lien vidéo. Mais il faut également que l'échange de documents soit sécurisé. Parce qu'actuellement, on ne peut pas envoyer des documents médicaux par mail, parce que ce n'est pas un moyen de communication qui est sécurisé. Donc il y a des risques. Chez Léa, on est une entreprise qui respecte tous les critères de sécurité pour stocker des données de santé et ainsi garantir leur sécurité.
Comment vous expliquez, vous, que ça mette autant de temps à démarrer? Il y a à la fois les patients, ce que disait Franck Drouin,
les
médecins aussi, non,
les médecins sont assez réticents. Les médecins sont assez réticents parce qu'il y en a certains qui ne sont pas non plus totalement informés sur la différence d'une téléconsultation qui est remboursée et qui n'est pas remboursée, mais également... La moyenne d'âge des médecins en France est quand même assez âgée et nous on en rencontre beaucoup qui nous disent « Oh, j'ai pas envie de changer maintenant ». La téléconsultation en tout cas, elle prend compte le plus grand succès chez les jeunes médecins généralistes. C'est eux qui la pratiquent le plus.
Ouais, c'est une question vous dites Franck Drouin, il faut faire la différence entre télémédecine et téléconsultation. Et la télémédecine, ça concerne les praticiens entre eux.
Ça s'appelle les praticiens entre eux, c'est ce qu'on appelle la télé-expertise.
D'accord.
Donc, la télémédecine, c'est beaucoup plus large que la téléconsultation. Envoyer un examen d'imagerie, une radio, vers un médecin, que ce soit un médecin vers un médecin, un patient vers un médecin, ça fait partie de la télémédecine. C'est extrêmement large comme sujet.
D'accord. John Billard, racontez-nous un petit peu comment ça se passe dans votre commune. Vous êtes battu pour l'installation, c'est ça, d'une cabine de téléconsultation?
Oui, exactement. Alors, elle n'est pas encore ouverte au public puisque elle a été installée. Donc, c'est la cabine de téléconsultation de HKD, qui est une cabine de déconstruction qui a cette particularité qu'elle nécessite pas la présence d'un professionnel de santé, une infirmière ou un pharmacien, puisque pour que le remboursement aussi, vous parliez tout à l'heure des remboursements, s'exerce au niveau du patient, il faut qu'il y ait l'assistance d'une personne auprès pendant la téléconsultation. La particularité de la cabine HKD que je porte, c'est justement qu'il n'y a pas ça, parce que mon projet, il est porté aussi pour l'Association des maires ruraux de France, dont je suis le vice-président en charge des questions numériques, et qui va nous permettre de voir comment on peut utiliser cette solution pour les communes qui sont éloignées et très désertées, on va dire, médicalement, puisque vous avez des communes de montagne, vous avez des communes de campagne, où vous n'avez même pas d'infirmière, comment on va pouvoir apporter des solutions. Donc, sur le Favril, on est pour le moment dans une phase où on l'a fait découvrir aux médecins, puisque dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'appétence, je pense qu'il y aura une appétence à détecter chez les patients à venir faire de la téléconsultation médicale, mais il y a aussi un certain nombre de médecins qui, ne connaissant pas cette technologie, ont nécessairement besoin de le découvrir. Donc pendant tout le mois de septembre, en fait, on fait des journées portes ouvertes pour qu'ils viennent voir donc dans ma mairie, parce que la particularité de la cabine, c'est qu'elle est installée dans la mairie, pour voir comment ça fonctionne. Et je dois dire que les premiers médecins qui sont venus ont été plutôt séduits.
Voilà. Donc, mais pourquoi il y a besoin d'une cabine? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi le médecin a besoin de s'installer dans la mairie?
Alors, le médecin, lui, ne s'installe pas dans la mairie, c'est la cabine.
Mais qui vient dans la cabine? Je n'ai pas compris.
Alors, là, aujourd'hui, si vous voulez, c'est des patients qui vont venir à partir de l'octobre. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez plein de médecins qui ne connaissent pas cette technologie. Donc, on les invite à venir la découvrir.
D'accord.
Exactement. Puisque nous allons avoir besoin de médecins pour faire des téléconsultations, parce que sans médecins, ça ne marche pas. Et donc, pour ça, parce que pour les règles de l'ARS sur les exceptions, enfin, je ne rentre pas dans le méandre des difficultés qu'on a pour après se faire rembourser, on a besoin de recruter des médecins. Donc, on est là pour leur faire découvrir.
D'accord, d'accord. Et les réactions de vos administrés?
Alors, pour le moment, toutes les réactions sont plutôt positives. Moi, je n'ai pas encore ouvert, puisque c'est une première nationale, puisque c'est la première fois qu'on fait ça en France. Donc, à partir du mois d'octobre, on va pouvoir voir comment vont réagir les patients. Moi, ce que me disent mes administrés, mais au-delà, puisque c'est un projet qui ne concerne pas que ma commune, c'est plutôt, je suis plutôt encouragé. Pour l'anecdote, dimanche, parce qu'il y a eu un article dans la presse, on m'appelle maintenant docteur et non plus maire, parce que j'ai mis ce système en place, qui est un moyen, effectivement, de venir soulager les cabinets des médecins qui sont surchargés parce qu'ils sont pas assez nombreux, qui va, je l'espère, permettre aussi de désengorger, alors pas que seulement avec ma cabine, parce que il n'y en aurait pas assez, mais au moins les services d'urgence, et surtout de rassurer les patients, les concitoyens, qui sont très inquiets autour de ce sujet, puisque je rappelle que ça fait partie des doléances pendant au moment de la crise des gilets jaunes et des doléances qui ont été portées, c'est ce problème d'accessibilité à des premiers soins dans les communes rurales notamment.
Oui. Peut-être une réaction, Franck Droit.
Je crois qu'on peut souligner l'effort d'un maire pour s'investir là-dessus. C'est pas simple. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec John Billard il n'y a pas très longtemps. C'est tout à fait louable parce que aujourd'hui, les élus, et surtout dans les communes de petite taille, sont soumis à une pression importante des citoyens qui ressentent un besoin et une vraie carence. Aujourd'hui, il y a des départements qui estiment qu'ils sont en vraie carence d'accès aux soins.
Mais c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'il faut bien que qu'il y ait des médecins qui répondent. Donc le temps qu'ils vont prendre pour la téléconsultation, c'est un temps qu'ils ne donneront pas à leurs patients physiquement.
C'est un sujet qui ne manque pas de paradoxe, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en France, il n'y a jamais eu autant de médecins. Le nombre de médecins, globalement, est en augmentation, sauf que le nombre de médecins généralistes est en diminution. Que leur exercice en mode libéral, le médecin d'antan comme le docteur Knock, le fameux Louis Jouvet, merveilleux film, c'est terminé. C'est terminé. Il faut comprendre que les professions médicales sont en plein bouleversement. Et qu'eux-mêmes sont soumis à des pressions très importantes. Et qu'auparavant, on avait des médecins généralistes qui pouvaient finir jusqu'à 22-23 heures.
Il y a un vrai changement démographique. Il y a un changement aussi. Alors, moi qui suis plutôt féministe, il y a aussi un changement du fait qu'il y a de plus en plus de femmes médecins et qu'elles n'ont pas, elles ont à gérer la famille et que dans le temps c'était l'homme était médecin, la femme faisait le secrétariat, s'occupait de la maison. Non, c'est une réalité, ça aussi.
Les chiffres montrent qu'en fait, ça touche à la fois les hommes et les femmes.
Aussi,
c'est-à-dire que les jeunes médecins qui s'installent, d'abord ne s'installent plus individuellement, avec la plaque en bas de l'immeuble, ils s'installent collectivement et qui sont concernés par le même souhait d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Oui. Vous confirmez.
Non, moi, je pense qu'il faut absolument louer la démarche de ce maire d'avoir une action aussi novatrice en France que d'équiper une commune. D'équiper une commune d'une cabine comme ça. Et c'est vrai qu'il a compris c'est aussi aux élus d'essayer de trouver des solutions avec les professionnels de santé pour faire venir les médecins sur leur territoire et comprendre l'aspiration des jeunes médecins à travailler en groupe avec des infirmières, des médecins spécialistes dans une même maison de santé et même peut-être aussi repenser toute la pratique.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet accès aux soins se fait dans une commune sur le territoire.
Ouais.
Aujourd'hui, on voit beaucoup se développer, comme Léa, c'est bien qu'il y ait des développements d'entreprises privées, de plateformes distantes pour les gens qu'ils appellent, mais il n'y a pas toujours d'ancrage sur le tissu local, le médecin, la pharmacie, l'hôpital, etc. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Est-ce que l'accès à cette téléconsultation, cette télémédecine se fasse complètement en imbrication avec ce qui se passe sur le territoire, ce qui se passe dans le village, ce qui se passe dans la ville. Parce que sinon, ça risque de complètement déstructurer.
Il faut qu'il y ait une coordination sur place. On a Ariane en ligne avec nous. Bonjour Ariane.
Oui, bonsoir. Et bonjour.
Bonjour.
Je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la télémédecine ne va pas remplacer la médecine. S'il y a une coordination entre tous les soins offerts sur place, surtout dans les lieux un peu reculés, et la médecine, les consultations par télémédecine, c'est tout à fait formidable parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer à 30 km ou d'aller aux urgences. Si on tombe, si on se casse une jambe, il faut quand même avoir une aide tout de suite. Il faut appeler les pompiers, je ne sais pas.
Vous avez eu recours à la télémédecine? Vous avez déjà...
J'ai été sollicitée, j'ai vu ce que ça proposait et j'avais besoin d'un ophtalmo. Alors c'est la seule fois où je n'ai pas vu mon ophtalmo par télémédecine, parce que j'en ai un à Paris, mais j'étais obligée d'aller à Paris pour faire la consultation. Ouais. Et il se peut que la prochaine fois je vienne, mais quand même, la consultation d'ophtalmo, il faut quand même avoir des appareils spécialisés. Mais sinon, je suis tout à fait prête pour une consultation, par exemple, de dermatologie, où il faut vraiment, il y en a très peu, et puis il faut prendre un rendez-vous 6 mois à l'avance, quand on a, une excroissance suspecte, le faire par télémédecine, ça me paraît tout à fait possible quand on est équipé, bien sûr.
Oui. Merci beaucoup, merci de votre témoignage, Ariane. On se retrouve dans un instant. Êtes-vous prêt à vous faire soigner à distance par la télémédecine? 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio et on parle de la télémédecine avec beaucoup d'applications, de plus en plus d'applications qui vous proposent des consultations de médecine. On essaye d'y voir un petit peu plus clair. Êtes-vous prêt à vous faire soigner à distance? Est-ce que vous avez été sollicité par ce type d'application? 0826 300 300, on en parle avec Louis Malachan, médecin généraliste, directeur médical de Léa, solution de télémédecine, et Franck Drouin, consultant en santé, président de CAISA, un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la santé. Et puis toujours en ligne avec nous, John Billard, maire du Favril, président de l'association des maires ruraux d'Eure-et-Loire, qui a installé une cabine de téléconsultation dans sa mairie. Peut-être des questions, on a entendu ce que disait Ariane tout à l'heure, ça ne marche pas pour toutes les spécialités.
Alors,
quel type de consultation on peut faire par télémédecine?
Alors, toutes les spécialités en France ont le droit de faire de la télémédecine. Il est vrai que les dermatos, ça marche plutôt bien parce qu'ils peuvent recevoir des photos de la lésion et donner leur avis au médecin. Il y a plein de consultations qui peuvent être faites par télémédecine, en particulier les consultations de renouvellement d'ordonnance ou également les consultations, le patient il vient tôt. Le matin, le docteur lui prescrit une prise de sang, et ils peuvent se revoir en fin de journée avec une consultation à distance pour que le médecin puisse expliquer la téléconsultation. Et ça fait ainsi un avis médical qui est suivi et c'est sécurisé.
D'accord. Alors, j'évoquais ces applications, Franck Drouin. C'est quoi la différence? Parce qu'on vous propose en gros de consulter directement un médecin via une plateforme, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Les limites du système?
Pour faire très simple, vous avez des plateformes qui ont leurs propres équipes de médecins qui sont autour du téléphone, pour faire très simple, et qui pilotent justement, qui ont une cohérence dans le dans la réponse. Et puis, il y a des plateformes qui font de l'intermédiation, qui vous appelez, ils vous mettent en relation avec un médecin qui est disponible à ce moment-là, qui est d'accord pour réaliser cette consultation.
D'accord. Et ça c'est remboursé ou pas ?
Dans les deux cas, c'est remboursé à partir du moment où ça respecte les critères réglementaires.
Et c'est quoi les critères réglementaires ? C'est encore une fois d'avoir...
C'est d'avoir vu un médecin dans les 12 derniers mois.
Ouais.
Et que cette
Pas forcément celui-là.
Non, pas forcément. Que cette téléconsultation soit recommandée par votre médecin traitant.
Mmh.
Voilà. Et puis, je crois que c'est principalement ça. Et d'utiliser des outils sécurisés, technologiques sécurisés.
Oui. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces plateformes ?
Alors, chez Léa, nous, on n'est pas du tout une plateforme. Ouais. En fait, nous, on équipe des médecins pour qu'ils suivent eux-mêmes leurs propres patients.
D'accord.
Et par contre, ces plateformes, oui, on peut leur faire confiance, parce que c'est des médecins qui ont été formés en France, qui sont thésés en France et qui exercent en France. Pour faire de la télémédecine en France, il faut avoir son diplôme de médecine en France et être inscrit à l'ordre.
Mais est-ce que c'est aussi fiable d'avoir quelqu'un par écran interposé que quand vous êtes dans un cabinet ?
Alors, l'interrogatoire du médecin est absolument aussi fiable. Par contre, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'examen clinique possible dans la simple mesure où le médecin peut juste visualiser certaines lésions. On se rend compte que lors des téléconsultations, les médecins échangent beaucoup plus avec leurs patients et les patients prennent plus de temps de décrire leurs symptômes. En tout cas, une téléconsultation, c'est vraiment une bonne première consultation. Si jamais le médecin sent que ça ne peut pas se poursuivre à distance, à ce moment-là, il convoque le patient à son cabinet pour faire un examen clinique approfondi.
Oui, Franck Grun.
Il faut noter qu'on est au début d'une ère nouvelle là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés maintenant qui sont comme Google ou autres qui d'ores et déjà ont bâti des algorithmes qui permettront à un patient, soit par téléphone, soit par Internet, etc., d'évoquer leurs problèmes de santé et d'avoir des réponses avec, en face, des outils d'intelligence artificielle.
Mmh.
On est vraiment dans une révolution complète de la relation entre un patient et les professionnels de la santé. Mais une certitude, c'est qu'on aura toujours besoin du dialogue singulier entre un patient et un professionnel de la santé. Mmh. Que ça soit, il faut le souligner, aujourd'hui, on parle beaucoup des médecins, puisque 40% des actes de téléconsultation sont faits par des médecins généralistes, 30% par des spécialistes. Et demain, et c'est une belle avancée portée par le gouvernement, les infirmiers, infirmières, pourront également réaliser des actes en téléconsultation.
Comme quoi ? Parce que les infirmiers, ils viennent faire des pansements, des maladies, piqûres, des prélèvements.
Les maladies chroniques, pour les diabétiques notamment, l'hypertension. On a la chance en France d'avoir un très bon niveau de professionnels de la santé.
Ouais.
Et nos infirmières, aujourd'hui, revendiquent, et à juste titre d'ailleurs, une place plus importante dans le parcours de soins.
Mais est-ce que ça peut aider à lutter contre les déserts médicaux ?
C'est une des réponses, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont mises en place. Parce que, par exemple, 5% par an de recours supplémentaires aux urgences. Pourquoi ? Parce que les gens semblent ne plus trouver de réponse sur le territoire. La téléconsultation peut permettre à des gens de ne pas aller aux urgences pour un renouvellement d'ordonnance parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, par exemple. Bon. Mais il y a plein d'autres dispositions aujourd'hui, portées par les pouvoirs publics, mais en accord assez consensuel avec les professionnels de la santé, sur les communautés de professionnels de santé, sur les territoriales de santé, où on va demander aux médecins généralistes libéraux d'aider à organiser une coordination entre eux, autour du médecin, le pharmacien, l'infirmière, pour éviter que les gens n'aillent aux urgences. Voilà, ça, ce sont des réponses qui sont bien plus fortes et structurelles que la téléconsultation. Mais la téléconsultation, c'est un acte, c'est un prolongement technologique d'un acte porté par plusieurs professionnels de la santé.
Oui, Philomène nous dit c'est le système Azalée pour le diabète. C'est ça ou pas ?
Oui, c'est certaines infirmières qui sont spécialisées dans la prise en charge du diabète. Ce sont des infirmières ultra spécialisées.
Ça se met en place.
Et aussi, la téléconsultation va arriver dans les pharmacies, avec des cabines qui vont être placées un peu partout en France. Et également, la téléconsultation est au centre du plan d'Agnès Buzyn pour la réforme des urgences et du SAMU.
Et vous sentez quand même une réticence. Encore une fois, on misait face au chiffre 500 000 contre 60 000 actes. C'est quoi ? Ça vient de quoi ? Vous l'avez dit, peu de réticence.
Je crois qu'il faut relativiser.
Mise en place.
Il faut relativiser. Il y a une très forte augmentation depuis que c'est mis en place. Ça ne fait qu'un an, vous savez. On a un système qui est quand même historique et qui est séculier. Donc 3 300 aujourd'hui consultations par semaine, ça augmente progressivement. Ouais. Et puis, vos émissions contribuent à faire connaître.
Ce qui me paraît compliqué, c'est quand même cette histoire de remboursement. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir vu de médecin fait qu'on ne peut pas être remboursé. C'est quand même ce que vous nous dites. Donc, ça, c'est quelque part, vous disiez que ce système n'était pas... qu'il y avait beaucoup de paradoxes, c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire, s'il y a un médecin qui est à 70 ou 80 km, justement, la télémédecine ne va pas vraiment m'aider là-dedans.
Alors, c'est dans le plan pour développer la téléconsultations, justement, ils veulent mettre des centres de téléconsultations départementaux, donc dans les CPTS, dans les communautés territoriales de professionnels de santé. Et à ce moment-là, on aura le droit de consulter cette garde de téléconsultations constante. Ça, on aura le droit de le faire. Parce que c'est pour le critère de l'urgence.
On a Philomène qui nous dit, oui, c'est ça, on va régler le problème des déserts médicaux. Imaginez 80 ans devant son ordinateur. C'est aussi un des paradoxes.
C'est vrai, mais on a des patients, nous, chez Léa, de 84 ans qui utilisent notre solution et ça fonctionne bien.
Sur les premiers chiffres, les 60 000 qui ont été pratiqués, 10% des personnes ont plus de 70 ans. Quand même.
Ah oui.
Ouais. Donc, et puis on est vraiment, encore une fois, c'est le début d'une transformation beaucoup plus lourde.
Hein. Donc il va être sur des générations qui vont se mettre petit à petit à la télémédecine. Et...
Tant du côté des patients que du côté des professionnels de la santé. Aujourd'hui, plus d'un médecin sur deux en France a plus de 50 ans. Pour situer, c'est 20% seulement des cadres en France qui ont plus de 50 ans. Vous voyez, derrière les chiffres, il y a beaucoup de médecins à la retraite qui continuent d'exercer. Vous voyez, donc... Mais il y a un changement générationnel qui va s'instaurer. Les jeunes médecins seront plus favorables à cela, évidemment.
Relisez cette tribune, donc publiée dimanche dans Le Parisien. Les médecins qui réclament le développement de la télémédecine. C'est à lire. Merci à vous, merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité et reparler du choc pétrolier qui nous attend peut-être, du retour des enfants de djihadistes et bien d'autres sujets encore. À tout de suite.